pour le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde.
Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après 2 saisons axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de 4 merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, 3 sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolos bizarres, avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invités à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Hello! Aujourd'hui, on va parler pour ce 40e épisode d'un sujet inopiné, mais qui me vient vraiment à cœur, naturellement, de partager avec vous, la résilience. Alors pourquoi on parle de résilience aujourd'hui? Pour vous situer un petit peu le contexte, je suis en voyage en Indonésie avec ma petite tribu, et c'est pas toujours évident de trouver un endroit qui soit calme et confortable pour pouvoir enregistrer un épisode sans avoir trop de bruit de fond. Vous doutez bien qu'avec 4 enfants, les créneaux sont pas hyper larges et les seuls que j'avais de dispo, en fait, il y a eu des événements extérieurs qui m'ont empêché d'enregistrer l'épisode que je souhaitais faire, qui sortira donc la semaine prochaine. Nourrir, c'est soutenir. Et finalement, j'ai été découragée vraiment plusieurs fois pour vous le faire rapidement. La première fois que je m'étais installée paisiblement, il y a la débroussailleuse qui a été passée juste à côté. La deuxième fois, j'avais plus du tout de connexion internet, donc j'ai toutes mes notes, moi, qui sont sur mon ordinateur. Ça m'embêtait un petit peu de le faire sans avoir accès au travail que j'avais préparé. La troisième fois, mes enfants sont arrivés à ce moment-là, au moment où moi j'étais bien installée. Ça a tout fait capoter et après, voilà, le quotidien a repris le dessus. Ensuite, j'ai fait un faux essai, enfin en tout cas j'avais commencé à enregistrer, je me suis rendu compte au bout de 10 minutes que mon enregistreur n'avait pas lancé l'enregistrement, voilà, parfait. Ça c'était vraiment juste pleinement de ma faute, mais
tous les petits trucs extérieurs, c'était pas ma faute, j'y pouvais rien. Et la dernière fois, finalement, ce sont les piles qui m'ont lâché. Donc les piles qui m'ont lâché, il a fallu que je me fasse 40 minutes de marche pour aller en chercher la petite boutique d'à côté qu'il y en avait. Donc bon, ça a été assez décourageant pour moi. Et je sais que j'ai ma fille qui m'observait à côté. J'ai ma fille aînée qui a 15 ans, qui était à côté, elle faisait son travail parce que cette année, il passe le brevet. Et elle me regardait, elle m'observait. Et du coup, dans ces moments-là, j'étais hyper découragée. Et en même temps, je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer comme image? Est-ce que l'image que je veux lui montrer là, c'est une maman qui laisse tomber, qu'en a marre, qui s'énerve? Ou si c'est une maman qui, oui, certes, bon, souffle, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais qui réessaye, qui retente, qui se remotive et qui ne se laisse pas aller, qui ne se laisse pas décourager. Et bien, en fait, c'est cette deuxième option que j'ai vraiment envie d'offrir comme image. Et c'est ce que je me suis appliquée à faire. Non pas sans mal, toujours est-il que 3 jours plus tard, je suis là, dans de bonnes conditions, pour enregistrer. J'ai changé un petit peu le programme et c'est bien ça, la résilience. Alors, c'est quoi la résilience ? La résilience, en gros, ça va être notre capacité à faire face, à s'adapter avec des situations, des aléas qui peuvent être soit déroutants, soit difficiles et même parfois traumatiques. En gros, ça va être la compétence qu'on va développer, qui va nous permettre de rebondir dans plein de situations, de surmonter des obstacles et même de faire face aux adversités de la vie. En gros, persévérer malgré un échec, ça va être une forme de résilience. Et moi, je suis convaincue que ce qui peut vraiment nous aider, c'est avoir un pourquoi qui est solide. Quand on sait pourquoi on fait les choses, on est capable de se relever malgré tous les petits couacs qu'il peut y avoir et de persévérer encore et encore. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime ici en proposant un podcast qui est une ressource qui est complètement gratuite, que tout le monde auquel tout le monde peut accéder. C'est vraiment l'idée que je suis convaincue que ce que je livre ici, ça peut apporter de la valeur aux personnes qui vont l'entendre parce que ça va être mon cheminement de maman et de professionnelle. Et vraiment, il y a des choses que j'aurais aimé entendre moi-même. Et du coup, pour moi, c'est important de délivrer ces messages-là. Donc, merci d'être ici pour m'écouter. N'hésitez pas à partager autour de vous, on ne le rappellera jamais assez. Il y a bien sûr des gros groupes qui sont capables de faire des contenus très qualitatifs et de le partager moyen de la communication avec des gros budgets, de faire de la publicité énormément. C'est pas du tout le cas de la plupart des petits podcasts que vous pouvez écouter. Et du coup, vos partages, ça prend un petit peu de temps pour vous, mais pour nous, c'est hyper précieux parce que c'est une manière, on va dire, de diffuser nos messages. Et voilà, je pense que c'est si vous êtes satisfait ou satisfaite un minimum du contenu, eh ben c'est une belle contrepartie. Donc la résilience, elle va être importante non seulement en tant que personne, mais également aussi en tant que parent et en tant que professionnel. Dans la vie de parent, il y a vraiment un adage que j'aime beaucoup, c'est qu'avant on a des principes, après on a des enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on imaginait, même quand on n'a pas envie de se faire une idée très précise. Quand on est enceinte, des fois on nous dit attention de ne pas trop idéaliser votre enfant et on n'a pas envie de faire ça. Enfin, moi je ne connais pas de personnes qui se sont dit oh, si, moi j'ai envie qu'il soit comme ça, qu'il fasse ça, qu'il ait tel intérêt, telle coupe de cheveux, tel truc. Pas du tout, moi je ne connais pas de personnes comme ça en tout cas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on se fait une certaine idée de comment ça va se passer et surtout peut-être même de quel parent on va être. On peut imaginer que on va réussir à garder notre calme tout le temps, à parler sans élever trop la voix. Moi, je me souviens d'une chose que je fais beaucoup malgré moi et que j'aime pas du tout, c'est froncer les sourcils. D'ailleurs, je suis en train de bien choper la ride du lion, c'est pas pour rien. Et vraiment, je me souviens, quand je me suis rendu compte de ça en tant que jeune maman, je me disais mince, mais j'ai pas du tout envie de ce regard dur là, tout ça. Et ça a été un énorme travail de me dire, en fait, oui, ça fait partie un petit peu des choses que j'ai du mal à maîtriser, que je ne fais pas exprès. J'ai un visage qui est particulièrement expressif dans le bien comme dans le mal, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie des petites choses. Finalement, avec du recul, je me dis, c'est pas très grave. Ouais, j'ai tendance à avoir ce réflexe-là. Je lutte comme je peux contre. Et puis des fois, est-ce que c'est bien grave finalement? Et je pense que la résilience, c'est un petit peu ça. C'est un compromis entre du lâcher-prise, de l'acceptation. Alors l'acceptation sans forcément être dans le chemin inverse de tout laisser faire et de dire que rien n'a d'importance, c'est pas ça l'idée, mais de trouver vraiment un juste milieu, de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte et comment surtout je rebondis, comment je fais face à ces choses-là que je n'avais pas prévues, comment je passe au-dessus, comment je passe outre. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui s'apprend. Qui s'apprend avec le temps. Je suis convaincue qu'on n'a pas du tout, à la base, les mêmes réserves. On n'a pas grandi toutes et tous avec le même accompagnement et du coup, on n'a pas les mêmes capacités de résilience à la base, même si je suis vraiment ici pour vous dire qu'elles peuvent être développées. La résilience, elle va servir en tant que personne à part entière, hein, dans plein de situations de la vie courante, mais également en tant que professionnelle. Parce que finalement, ça va être aussi notre capacité vraiment à se focaliser sur ce qui est important et à laisser couler un petit peu toutes les choses qui peuvent nuire si on focalise dessus, mais qui en soi, parfois, alors je ne dis pas que ce n'est pas forcément important, parfois c'est des choses qui sont importantes, mais sur lesquelles on n'a pas de prise ou peu de prise, et finalement ressasser sans cesse ces difficultés, ces choses-là, eh ben, ça ne va pas nous aider. Je pense à une chose en particulier, j'ai rendu visite à une amie et c'est drôle parce que cette amie-là, elle est indépendante et elle propose des formations en ligne également. Donc on parlait aussi bien de nos vies perso que notre vie pro et on faisait un petit peu le parallèle en se disant waouh, j'ai régulièrement moi des gens, et c'est mon cas également, qui me contactent en me disant « bah oui, mais en même temps, toi, c'est facile, t'as ton compagnon qui est à la maison une partie du temps, mais pour toi, c'est facile, tes enfants sont plus grands, même s'ils font l'IEF, mais pour toi, c'est pas facile. » Et en fait, on ne sait pas, je pense, qu'on n'est pas dans la vie des gens, et en fait, on a tendance à idéaliser et à voir que la partie facile, la partie simple. Donc, on a tendance à voir l'herbe plus verte ailleurs en se disant « bah oui, pour cette dame-là, en effet, ça doit être plus simple parce qu'on trouve toujours les choses qui sont plus faciles dans la vie des autres sans voir les difficultés, les contraintes et la résilience dont ces personnes font preuve. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. On a toutes et tous nos difficultés. Bien sûr, on n'est pas sur un pied d'égalité. Il y a des personnes qui sont favorisées au départ. Il y a des personnes qui sont privilégiées, qui vont avoir un environnement qui va être plus stimulant, qui vont avoir un environnement qui est plus compatissant, qui vont avoir une famille qui est plus soutenante dans leur maternage. Et c'est vrai, c'est une réalité. Toujours est-il qu'on n'a pas toute la vision globale de ce qui se passe chez les autres. Et je vous assure que tout le monde est confronté à des difficultés. Des difficultés qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas perçues de la même manière. Mais ce n'est pas à nous... on ne peut pas juger. Il n'y a pas les petites difficultés d'un côté, les grandes difficultés en fait. Je pense qu'il n'y a pas de biais, enfin, il n'y a aucune comparaison qui est possible puisque c'est vraiment propre à nos histoires, à notre personnalité. Par contre, il y a une chose qui me semble importante à développer ici. C'est que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette théorie de la coquille de noix contre le bateau. Et moi, je suis vraiment... animé par cette croyance que notre enfant, en fait, quand on le materne, quand on l'accompagne, eh ben, on l'aide petit à petit à étoffer sa coquille de noix pour en faire un beau bateau. On imagine que la vie, en fait, c'est une mer. Alors, on est une espèce, on aime protéger nos petits bébés au départ. Donc, on va essayer de les emmener le plus près du bord, un endroit où il n'y a pas trop de vagues, qui est plus calme, pourquoi pas une petite mangrove, voilà. Comme le font les espèces animales, où notre enfant, notre petit bébé, va pouvoir être protégé au maximum. Donc ça, par exemple, ça peut correspondre à cette période de congé maternité, de congé parental. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je crois qu'il faudrait en faire un épisode à part entière. Toujours est-il que c'est le moment où on va vraiment être cocooning avec notre enfant les premiers mois, pour certaines personnes les premières années, pour vraiment être complètement disponible, répondre à ses besoins quand on le peut de manière le plus adaptée et efficace possible. Donc ça, c'est le moment où l'enfant entre dans la vie et on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop vague autour, que sa petite coquille de noix qui est toute fragile, on puisse vraiment l'aider petit à petit à le construire et à en faire un beau bateau. Et toutes les fois, on va répondre positivement à ses demandes, je dis positivement, ça ne veut pas dire du tout de jamais lui dire non, tout ça, mais on va en tout cas être dans l'écoute de ses demandes, de ses besoins, même si on n'y répond pas. En tout cas, on les écoute. Et toutes ces fois-là, on va faire en sorte de l'aider à faire grandir sa confiance en soi, eh ben, on va petit à petit l'aider à faire grandir cette coquille de noix jusqu'à une barque. Et puis dans la vie, il y a toujours des petites difficultés. Il va y avoir des petites vagues un peu plus loin sur le bord. Et ces petites difficultés, ben, ça peut être les petites choses du quotidien qui vous semblent pas importantes, avec l'enfant qui a perdu son caillou, qui était son super trésor. C'est toutes ces petites choses-là que si on les nie, si on les minimise, eh ben, l'enfant, il ne va plus, au fur et à mesure du temps, être en mesure de nous confier ces choses qui comptent et qui sont importantes pour lui. Et toutes ces petites choses-là, eh ben, au fil de la vie, ça va devenir des choses un petit peu plus lourdes, un peu plus importantes. Ça peut être pour les adolescents leur premier chagrin d'amour ou des questions qui sont un petit peu plus intimes. Eh ben, moi, j'aime à dire qu'en fait, si on a répondu en accueillant leur chagrin, en accueillant leur joie pleinement quand ils sont petits, ils sont plus aptes à nous les livrer plus tard. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de construire sur du long terme. C'est une relation qui soit vraiment harmonieuse avec mes enfants, où on soit en confiance. Ça, d'une chose. Et de l'autre côté, me dire que de leur côté, eh ben, leur barque va pouvoir s'étoffer et grandir et que dans l'océan de la vie, il va y en avoir des difficultés. Ces difficultés, il va y avoir des grosses vagues. Et malheureusement, il va se passer des choses qui ne sont pas cool. Et personne ne vit dans une vie idyllique, parfaite sur tous les points. Non, on est tous confrontés à un moment donné à la maladie, au deuil, au handicap, à plein de situations différentes qui vont nous demander beaucoup d'énergie. Et dans ces moments-là, je me dis que les avoir coucounés, les avoir chouchoutés quand ils étaient petits, ça va leur permettre d'avoir des bases qui sont solides. En quelque sorte, je pense que toute cette résilience qui peut être construite au fil du temps quand nos enfants grandissent, elle va vraiment favoriser aussi bien la santé mentale que le bien-être émotionnel et leur capacité finalement à faire face à des situations qui sont stressantes et à pouvoir savoir quelles sont les personnes ressources autour d'elles, parce qu'on va en parler juste après. En effet, dans la résilience, notre entourage peut être aussi important. On peut le voir, les enfants font naturellement preuve de résilience. Ils ont une capacité à s'adapter et à se remettre des difficultés qui est souvent impressionnante. On peut voir par exemple, l'exemple typique, c'est l'enfant qui tombe, qui peut pleurer un petit peu, puis finalement il est en train de jouer, il est en train de faire quelque chose. Il ne va pas rester longtemps sur son égratignure, il va vite se passer à autre chose. Oui, ça fait mal, mais il va continuer de jouer, il va continuer de s'amuser. Ça peut être l'enfant qui a froid, qui s'amuse alors qu'il est en train de se baigner. Finalement, nous on voit bien qu'il a les lèvres bleues, qu'il a froid, mais en fait il s'amuse tellement que ça, il va passer outre cet inconfort du froid. On peut le voir aussi dans de nombreuses situations, comme la capacité des enfants à s'adapter avec aisance suite à un divorce ou à une séparation, suite à un déménagement. En fait, toutes ces petites perturbations qui parfois nous paraissent hyper challengeantes en tant que parents. Et puis pour eux, finalement, ils ont quand même moins d'habitude que nous. Même si les rituels ont du bon pour les enfants, les rituels, ça prend certaines fois beaucoup de temps à se construire. Et donc, ils n'ont pas la même base de référence, puisque ça, c'est encore en construction. Donc, ils ont beaucoup, une grande capacité d'adaptation. Je voulais rajouter une petite chose, c'est que parfois, il faut aussi accepter que ce n'est pas le bon timing, que les choses seront plus fluides et plus simples à un autre moment, que ça prendra moins d'énergie, où on peut être aussi un peu plus ou moins enclin ou efficace selon notre période du cycle, par exemple, ou de l'année, où il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité à travailler le matin, d'autres qui sont plutôt du soir. Donc ça, c'est des petits éléments à prendre en compte pour réussir à bien se connaître aussi et réussir à trouver le juste milieu entre la résilience et l'entêtement. Parce que l'entêtement, ça va être vraiment histoire de persévérer coûte que coûte, sans vouloir réadapter, sans vouloir changer la direction. Là, ça risque d'être un petit peu trop excessif et plutôt de nous faire perdre des plumes. Alors la résilience, selon moi, c'est une compétence qui peut être développée et renforcée. Et donc, il y a quelques petites choses qui peuvent être facilitantes. Déjà, d'essayer de cultiver une attitude qui est positive. Actuellement, je lis un livre qui s'appelle « Kilomètre zéro », qui m'a été conseillé par ma belle-sœur, qui est un très chouette bouquin, où justement, une femme se retrouve dans un périple au Népal, et petit à petit, elle apprend différents enseignements, et il y a vraiment ce côté-là de la culture positive. Donc, essayer d'adopter une attitude qui soit plus optimiste face aux difficultés, puisque les difficultés, elles sont là. De toute façon, on ne peut pas les faire disparaître, c'est pas en râlant, en mettant beaucoup d'énergie dans le côté négatif qu'elles vont s'envoler, malheureusement. Ça ne fonctionne pas du tout, au contraire, ça va encore plus vous plomber. Et du coup, ce réservoir d'énergie que vous avez, autant essayer de l'utiliser vers du positif. C'est-à-dire, ok, en gros, il m'arrive ça, et ben, qu'est-ce que j'en fais en fait ? Qu'est-ce que j'en fais ? Oui, c'était pas prévu comme ça, ça m'embête, ça m'ennuie, ça me contrarie, mais voilà, toujours est-il que c'est un fait. Concrètement, maintenant, à partir de là, comment je peux faire au mieux ? Et il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut essayer de tourner de manière positive. Je ne sais pas si vous avez déjà vu tout passer sur les réseaux sociaux. Il y a parfois des petites phrases comme ça qui sont très sympas. Par exemple, au lieu de dire « je me trompe souvent », on peut adopter une perspective un peu différente en prenant du recul et se dire « ok, oui, je me trompe souvent ». Attention, je passe au message, j'ai de nombreuses opportunités d'apprendre chaque fois que je fais des erreurs. Et mine de rien, on passe de quelque chose qui est plombant à quelque chose qui est positif. J'ai de nombreuses opportunités. Et c'est vrai, c'est une réalité. C'est la même situation, sauf que c'est comme une montagne, on peut voir un versant ou l'autre et il n'a pas du tout la même vision, la même valeur à nos yeux. Donc cette transformation de phrase, elle permet de changer de perception. Et donc, en gros, les erreurs, on les considère comme des occasions d'apprendre et de grandir. Et ça nous aide à rester motivés et à persévérer face aux difficultés. Et donc, on peut imaginer, par exemple, si je dis « je suis toujours stressée », on peut essayer de prendre du recul et de dire « ok, je sais être attentive à mes ressentis et adopter des mesures en fonction ». Je suis toujours stressée, ça c'est quelque chose, on vient ancrer quelque chose de difficile, de douloureux. Et à côté de ça, on dit « ok, je sais être attentive à mes ressentis ». Sentez la différence, essayez de vous le répéter, ok. Et sentez ce que ça fait. Moi, en gros, ça fait une grosse différence. À l'intérieur de moi, je me dis « waouh, ouais, je sais être attentive ». C'est quand même une super, pour moi, c'est une super compétence d'être attentive à ça. Certes, là, c'est du stress, mais ça veut dire que je suis aussi capable d'être attentive à d'autres ressentis. Et ça, c'est quelque chose de positif. On pourrait aussi imaginer de dire « je suis capable de gérer le stress et de trouver un moyen de me détendre ». Voilà, je suis capable de le gérer. Je le ressens, certes, c'est une chose, mais j'en fais pas quelque chose, je ne me colle pas une étiquette de « je suis stressée ». C'est non, je ressens du stress. Non, je ne suis pas juste stressée, je suis capable de l'écouter, de l'accueillir, de le gérer. Ça, pour moi, ça fait une grande différence. Ensuite, il y a une chose qui est importante. Je pense qu'on a quand même grandi, pour la majorité d'entre nous, en tout cas, dans un contexte où on nous disait que c'était important de ne pas trop se vanter, de ne pas trop se mettre en avant. Moi, je sais, quand j'étais petite, dès que je disais quelque chose de positif sur moi, on me disait « Ah, Narcisse, sors de ce corps. » Narcisse, pour faire référence à la déité qui se regardait tout le temps dans le miroir en se trouvant magnifique. Et finalement, je me dis que c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'on est quand même en grande majorité des êtres qui sont hyper complexés. En tout cas, c'est mon cas, je suis quand même particulièrement complexée dans pas mal de domaines. Chose qui peut paraître étrange vu de l'extérieur. C'est vrai que quand j'en parle autour de moi, on me dit « pourquoi t'es mal par rapport à ça ?» Juste, c'est comme ça. Et donc, je pense que c'est important de prendre du temps pour renforcer notre estime de nous. Vraiment se dire « ok, on a beaucoup de capacités et de valeurs, mais on a le droit de les reconnaître, on a le droit de poser des mots dessus, on a le droit d'identifier nos forces, nos succès. » En fait, je pense que même plus qu'on a le droit, c'est qu'on a le devoir de ça. On a le devoir d'être objectif, d'arriver à prendre du recul pour savoir là où sont nos points forts, quelles sont nos plus grandes qualités, toutes ces petites choses-là, finalement, qu'on a tendance un petit peu par humilité à diminuer, à parfois rabaisser. En fait, non, il n'y a pas de fausse modestie à avoir. C'est important de vraiment être attentif à ces petites choses qui sont hyper positives, qui font partie de nous. Une autre chose qui peut aider par rapport à notre résilience, c'est de faire en sorte de s'entourer de personnes qui sont plutôt positives et bienveillantes. On peut chercher le soutien auprès d'une communauté, on peut aussi auprès de notre famille, d'amis, ou même d'un réseau professionnel, d'un réseau de soutien professionnel. Ça peut être tout à fait bénéfique pour nous. Quand je pense à ça, je pense au Doula Workshop que je suis en train d'organiser, qui aura lieu fin mai dans la Nièvre. Ça fait partie vraiment des choses qui, pour moi, vont être soutenantes pour les participantes, de se dire « Ok, on va se retrouver, on va choisir des thématiques ensemble qu'on a envie d'explorer, et chacune va pouvoir livrer sa vérité. » Et en fait, la somme de toutes nos vérités-là, on va en faire quelque chose qui va venir nous soutenir dans nos quotidiens de professionnels. Si vous avez envie de participer, vous allez pouvoir trouver dans les notes de ce podcast le lien pour pouvoir vous inscrire. Attention, nous sommes actuellement début février, les inscriptions auront lieu jusqu'à la fin du mois seulement. Donc si vous voulez participer à 4 jours entre professionnels sur le sujet de la périnatalité, on va pouvoir parler de business, on va pouvoir parler de vraiment un petit peu tout ce qui englobe notre posture professionnelle, aussi bien sur les parties vraiment concrètes auprès des familles, auprès d'autres professionnels, mais vraiment tout ce qui va intégrer notre pratique professionnelle. Donc je reviens sur le sujet de la résilience. On va aussi pouvoir se trouver des petits temps pour faire des petits bilans. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider, faire les bilans, voilà. Le début d'année peut être assez approprié ou l'année scolaire, parfois l'été, moi j'aime bien aussi faire un petit point assez régulièrement pour pouvoir me dire ok, quelles sont les actions que j'ai menées, qu'est-ce qui a été plutôt réussi, plutôt successful, qu'est-ce qui a été au contraire a fait flop, et finalement par rapport à ça, est-ce que je me sens alignée ou pas, et petit à petit réussir à trouver comment être plus flexible dans certains domaines et en même temps réussir à continuer à conserver mon ancrage, toujours en me reliant au pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je suis prête à lâcher et à ne pas lâcher. Et finalement, petit à petit, ça me permet de faire des choix qui sont toujours dans cette même direction. Je garde mon cap et les aléas me semblent certes me détourner un petit peu de mon objectif, mais il ne détourne pas la direction en fait, il rallonge le chemin et j'aime vraiment à penser que le chemin a autant de valeur que l'objectif. Ça fait partie des choses qui sont importantes, je pense aussi, pour pouvoir développer sa capacité de résilience et de se dire ok, et ça je pense que c'est la casquette d'éducatrice Montessori qui parle ici. Ce qui est important, et ça les enfants le font aussi assez naturellement, ce n'est pas l'objectif même, c'est le chemin pour aller vers cet objectif. Et il y a un exemple qui moi me parle beaucoup, c'est l'exemple d'un enfant qui est sur la plage. Vous pouvez imaginer un enfant qui est sur la plage avec une pelle et qui est en train de faire un très gros trou par exemple, ou un très gros château. Cet enfant-là, il a du mal, c'est dur physiquement, il peut parfois en avoir un peu dans les yeux, ça peut le gratter, ça peut être inconfortable pour lui, mais il a son objectif. Vous pouvez essayer de prendre la pelle à cet enfant, imaginez ce qui va se passer. Il va protester, il va récupérer la pelle, il va pleurer, il a envie, malgré les difficultés, de construire son château. Imaginez maintenant un homme qui, pour son travail, doit aller creuser ou construire un château de sable. L'homme, il le fait parce qu'il doit le faire, il n'a pas forcément envie, il n'a pas forcément le goût, ça n'a pas forcément de sens pour lui. Si vous lui proposez de prendre sa pelle pour faire le travail à sa place, qu'est-ce qui se passe? Il vous la confie avec plaisir. La différence, c'est que l'enfant, il a un objectif, mais ce qu'il veut aussi, c'est participer au chemin. Il veut aussi être inclus dans toute cette activité de A à Z. L'adulte, si le but c'est seulement le château sable, s'il peut éviter de le faire, il le fera. Et pour moi, là, c'est quelque chose d'assez représentatif. C'est pour ça que faire des choix chaque jour qui sont alignés avec vos envies profondes, avec vos valeurs profondes, ça va vous permettre de réussir à aller au-delà des aléas, d'aller au-delà des difficultés. Bien sûr, quand on souhaite accompagner notre enfant de manière respectueuse, on ne peut pas dire le contraire. C'est beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus d'engagement que de se dire là, je vais lui mettre une fessée, on n'en parlera plus. Là, je vais laisser pleurer dans son lit, et puis au bout d'un moment, il va faire ses nuits, bien que ça ne fonctionne pas forcément, et puis ça a des effets délétères sur du court et du long terme. Donc oui, c'est plus coûteux. C'est plus coûteux en temps, en disponibilité de l'accompagner de manière respectueuse. Mais à côté de ça, quand c'est aligné vraiment avec nos valeurs profondes, moi je crois vraiment que ça les aide à construire cette fameuse, à renforcer cette fameuse coquille de noix pour en faire un bateau qui soit solide, qui soit stable, qui lui permette de voguer à travers les vagues de la vie sans se retrouver submergé ou chaviré complètement. Et bien finalement, ça me permet d'aller bien au-delà de nombreuses difficultés. Donc voilà, c'est cette vision à long terme, savoir pourquoi vous faites les choses, quelle est la vision à long terme, ça va vraiment être facilitant pour faire preuve de résilience. Et encore une chose qui est importante, la résilience, il ne faut pas que ça soit la résilience à tout prix, de tout accepter, de voir toujours le positif. Bien sûr, on a le droit d'avoir des périodes de down, d'avoir des moods plus lourds, plus difficiles, plus compliqués. Il y a une chose auquel on ne peut pas couper en tant qu'être humain, prendre soin de son bien-être physique, de son bien-être mental, s'accorder de l'importance, se réserver des moments pour soi, privilégier sa santé physique, sa santé mentale, c'est vraiment indispensable. Vous pouvez vraiment essayer de vous ménager du temps, même si à côté la maison n'est pas propre, qu'elle n'est pas suffisamment rangée. Essayez de ne pas se fixer trop d'objectifs, parce qu'on a tendance à en vouloir faire toujours trop, et finalement si on focalise sur toutes les choses qu'on n'a pas faites, c'est vite plombant, alors que si on fait en sorte de se mettre un petit peu moins de pression et de focaliser sur ce qu'on a réussi à faire, et ben on se rend compte que on accomplit des tâches qui sont vraiment immenses, et accompagner ses enfants de manière respectueuse, c'est une tâche qui est déjà immense. Ensuite, je ne peux que vous conseiller de vraiment vous fixer des objectifs qui soient réalisables bientôt. On fera un épisode au sujet des objectifs qui sont smart. Qui donc, petite spoiler alerte, vous retrouverez ça bientôt. Et si vraiment vous faites le constat aujourd'hui en écoutant cet épisode que vous n'avez pas une capacité de résilience qui est au top et que vous vous sentez mal, que vous avez vraiment des difficultés à faire face aux différents imprévus, aux changements, et que ça nuit à votre qualité de vie, n'hésitez pas à chercher du soutien auprès de professionnels. C'est tout à fait ok d'avoir besoin de cheminer, et puis parfois, c'est faire preuve de beaucoup de force et beaucoup de courage que d'oser pousser la porte d'un professionnel qui puisse vous aider et vous fournir des outils et des stratégies pour renforcer votre résilience. Voilà, on va arriver au bout de cet épisode que j'avais envie de vous proposer. Si vous avez envie d'entendre un récit de naissance dont le thème était aussi amour, résilience, puissance de maternité, vous pouvez écouter le témoignage d'Oran, qui est le 7e épisode sorti en juillet 2020. Je vous remercie d'être resté jusque-là si vous avez tout écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à aller indiquer dans le petit sondage sur Spotify, vous pouvez, je pose des petites questions chaque semaine et vous pouvez répondre en général par oui ou par non. Partagez autour de vous si vous pensez que ça peut être utile. À très vite.